VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 2 mai 2018. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Jean-Roger Billon.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, le comité laïque de coordination annonce de nouvelles manifestations pour réclamer des élections transparentes en décembre prochain.
En République centrafricaine, la capitale Bangui plongée dans un nouveau cycle de violence après l'attaque meurtrière de mardi matin contre l'église catholique de Fatima.
Au Nigeria, des dizaines de personnes ont été tuées hier au cours d'un double attentat dans le nord-est.
Rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Iran, accusé d'avoir facilité la livraison d'armes au front Polisario.
Le président américain Donald Trump pourrait se rendre à Jérusalem pour l'inauguration ce mois-ci de la nouvelle ambassade américaine.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, les laïcs catholiques ont annoncé de nouvelles manifestations dans les tout prochains jours. Après 2 mois de trêve, le comité laïque de coordination, initiateur des marches organisées depuis fin décembre 2017 contre le régime du président Joseph Kabila, va organiser d'autres manifestations d'envergure pour obtenir la tenue des élections de décembre prochain dans la transparence et dans un climat apaisé. Les détails avec Thierry Kamoudi de Top Congo FM, nos stations partenaires à Kinshasa.
Réunis pendant 2 jours à Kinshasa pour évaluer la situation de la République démocratique du Congo à 7 mois des élections, le comité laïque de coordination déplore l'entêtement de la Commission électorale nationale indépendante concernant l'usage de la machine à voter, un outil, je cite, « décrié sur le plan national et déconseillé par tous les pays amis, y compris celui de la provenance de cette technologie ». Fin de citation. Les laïcs catholiques n'ont également qu'aucune mesure de décrispation politique n'a été véritablement d'application. Aucun exilé politique n'a pu retourner au pays. Le contentieux des dédoublements des partis politiques n'a pas été vidé. Les espaces démocratiques et médiatiques toujours pas libéralisés. Les poursuites judiciaires contre les opposants n'ont pas été abandonnées, note entre autres leur communiqué, qui s'insurge par ailleurs contre la partialité de la CENI et l'instrumentalisation par le régime de Joseph Kabila de la Cour constitutionnelle, organe qui doit gérer les contentieux des candidats et du résultat de vote. Ainsi donc, le CLC décide de lever la trêve décrétée fin février et annonce le démarrage des préparatifs des actions pacifiques d'envergure de protestation et de revendication sur l'ensemble du territoire de la RDC. Kinshasa, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Signalons aussi toujours en République démocratique du Congo que la procureure générale de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda est arrivée hier à Kinshasa alors que des demandes d'enquête sur la République démocratique du Congo ont été adressées à la Cour. En janvier, le Parlement européen a demandé instamment à la CPI et à l'ONU d'enquêter sur des allégations de crimes contre l'humanité dans le Kasaï, dans le centre du pays. Le 1er mars, le mouvement citoyen congolais Debout avait aussi demandé à la CPI d'enquêter sur la répression des manifestations pacifiques.
En Centrafrique, au moins 20 personnes, parmi lesquelles un policier, un prêtre, l'abbé Albert Tougoumalé Baba et un enfant ont été tués mardi à Bangui lors d'affrontements entre un groupe armé et les forces de sécurité. L'arrestation d'un membre du groupe armé du dénommé Force a provoqué l'attaque de l'église de Fatima dans le 6e arrondissement de Bangui au cours d'un office religieux, a indiqué l'ONU dans un communiqué.
En réaction à la mort du prêtre, des groupes en colère se sont rassemblés en différents point de la capitale. 2 personnes suspectées d'être des musulmans ont été lynchées à Lakunga, selon une source médicale. Et une mosquée a été incendiée par des manifestants dans ce même quartier où la MINUSCA a affirmé avoir dépêché une patrouille. Nous reviendrons sur ce regain de violence à Bangui en seconde partie de cette édition.
Au Gabon, le gouvernement du Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé a démissionné hier. Cette démission fait suite à la dissolution lundi de l'Assemblée nationale par la Cour constitutionnelle qui avait aussi demandé le départ du gouvernement. Selon la Cour, le gouvernement a échoué dans l'organisation des législatives au plus tard le 30 avril après 2 reports de ses élections depuis décembre 2016.
Au Nigeria, des dizaines de personnes ont été tuées hier au cours d'un double attentat dans le nord-est. Cette attaque est intervenue alors que le président Muhammadu Buhari visitait la Maison Blanche ici à Washington et a remercié Washington pour son aide dans le combat contre Boko Haram. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Un kamikaze s'est fait exploser dans une mosquée de Moubi dans l'état d'Adamawa, puis un second dans un marché à proximité au moment où les fidèles musulmans s'enfuyaient de la mosquée. Le porte-parole de la police locale, Othman Aboubakar, a confirmé la mort de 24 personnes, mais des bilans plus lourds ont été donnés par des témoins. Abou Saleh, secouriste, dit avoir aidé à transporter des dizaines de morts et des blessés vers l'hôpital. Sani Kakale, un autre secouriste, avance le chiffre de 42 morts et de 68 blessés. Une source hospitalière de Moubi parle de 37 corps à la morgue. Fin novembre, au moins 50 personnes ont été tuées dans un attentat similaire dans cette même ville de Moubi. Lundi, à la Maison Blanche, la lutte contre le terrorisme a été au cœur de la rencontre entre le président nigérien Muhammadu Buhari et son homologue américain Donald Trump. Cette année, Washington a vendu des armements au Nigeria pour 496 millions de dollars.
Rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Iran. Rabat accuse Téhéran d'avoir facilité la livraison d'armes au Front Polisario par l'intermédiaire de son allié, le Hezbollah libanais, Abdourahman Dia.
Lors d'une conférence de presse à Rabat hier, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a précisé que cette décision de rompre les liens avec Téhéran n'avait rien à voir avec les tensions actuelles entre l'Iran et l'Arabie saoudite, avec qui le Maroc est très lié sur les plans religieux et diplomatiques. Selon M. Bourita, une première livraison d'armes a été récemment fournie au Polisario, le mouvement indépendantiste sahraoui soutenu par l'Algérie via un élément à l'ambassade iranienne à Alger. Le Maroc dispose de preuves irréfutables, de noms identifiés et de faits précis qui corroborent cette connivence entre le Polisario et le Hezbollah contre les intérêts suprêmes du royaume, a affirmé le chef de la diplomatie marocaine. Il a affirmé que l'ambassadeur du Maroc à Téhéran a quitté l'Iran hier et qu'il va demander au chargé d'affaires de l'ambassade d'Iran de quitter le pays sans délai. Le Maroc avait déjà rompu ses relations avec l'Iran début 2009 pour protester contre ce qu'il appelle l'activisme religieux de Téhéran dans le royaume. Les relations avaient été rétablies en 2014.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a déclaré hier qu'il pourrait se rendre à Jérusalem pour l'inauguration de la nouvelle ambassade américaine. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
Le président Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait être présent lors de la cérémonie de transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, prévue le 14 de ce mois. Les nouveaux locaux seront provisoires en attendant de trouver un site définitif. Auparavant, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur Fox News avait dit qu'il souhaiterait la présence du président Trump à cette inauguration. Le locataire de la Maison Blanche avait déclenché au début de l'année de vives réactions en reconnaissant la ville de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Cela avait entraîné des manifestations de colère des Palestiniens et dans beaucoup de pays arabes et musulmans. Le 12 mai, l'avant-veille de la mise en place de cette nouvelle représentation américaine en Israël, le président Trump devra aussi se prononcer sur l'accord concernant le nucléaire iranien qui a été conclu après d'âpres négociations en 2015.
Concernant justement l'avenir de cet accord, les alliés européens des États-Unis ont tiré des conclusions différentes sur les preuves présentées lundi par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il a accusé l'Iran d'avoir menti auparavant sur son programme nucléaire, mais sans l'accuser directement de violer l'accord de 2015. Des diplomates européens soupçonnent que cette présentation a été coordonnée avec Washington. Elle visait, selon eux, à contrer les fortes pressions des Européens sur le président Trump pour qu'il ne se retire pas de cet accord entre Téhéran et les six grandes puissances. Hier, le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, s'est joint à ses homologues européens pour défendre l'accord et dit que M. Netanyahou n'a fait que démontrer en réalité la nécessité de préserver ce document et les restrictions ainsi apportées aux ambitions nucléaires iraniennes.
La Corée du Sud a confirmé aujourd'hui même que plusieurs avions de chasse furtifs américains F-22 Raptor avait été déployé en Corée du Sud pour des manœuvres aériennes conjointes en dépit de la détente avec le Nord. Des F-22 Raptor avaient déjà survolé la Corée du Sud en décembre lors des plus importants exercices aériens américano-sud-coréens quelques jours après le tir d'un missile balistique intercontinental susceptible de frapper n'importe quel site du territoire continental des États-Unis. La Corée du Nord réagit souvent vivement au déploiement d'avions furtifs comme les F-22, les F-35A ou les F-35B qui peuvent, selon elle, être utilisés pour des frappes chirurgicales.
Plus de 2000 partisans de l'ex-président brésilien Lula ont manifesté à Curitiba, dans le sud du pays, où l'ancien chef de l'État purge une peine de 12 ans de prison. Vêtu de rouge, la couleur du Parti des travailleurs, les sympathisants de l'icône de la gauche étaient venus soutenir celui qui reste le favori des sondages pour la présidentielle d'octobre. Malgré son emprisonnement, Luiz Inácio Lula da Silva, âgé de 72 ans, purge depuis le 7 avril une peine de 12 ans et un mois de prison pour corruption et blanchiment d'argent. Fin de ce journal. Tout à l'heure, les dossiers.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Les cours du pétrole ont effacé hier mardi leur gain de la veille. C'est à la suite des affirmations du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur l'existence d'un plan secret iranien pour se doter de la bombe atomique. Les cours ont en parallèle été fortement touchés par un renforcement du dollar lié à la hausse de l'inflation aux États-Unis et les perspectives de hausse de taux d'intérêt de la Banque centrale américaine, la Fed. Le dollar est monté ce mardi en séance à son plus haut niveau depuis le 9 janvier. Une appréciation du dollar rend plus cher l'acquisition de matières premières pour les investisseurs munis d'autres monnaies. Au Libéria, le premier budget solaire Weya soumis au Parlement s'élève à plus de 562 millions de dollars. C'est pour l'année fiscale 2018-2019. D'après le ministre des Finances, il répond aux orientations du président George Weah pour renforcer les politiques en faveur des pauvres. Les secteurs de l'énergie et de l'environnement, des infrastructures et des services de base, de la santé, des services sociaux et de l'éducation reçoivent les plus importantes dotations budgétaires. Au Bénin, le code foncier et domanial en vigueur risque de causer du tort à une large majorité de la population rurale. Il consacre le titre foncier comme seul titre de propriété. L'Association nationale des communes du Bénin a débuté une campagne de sensibilisation sur l'attestation de détention coutumière des terres et les formulaires élaborés pour sa délivrance.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Real Madrid défendra son titre en Ligue des Champions.
Oui, le Real Madrid qui va disputer une troisième finale de Ligue des Champions de suite. Mais c'est presque un miracle, puisqu'après sa victoire chanceuse à Munich 2-1 lors du match aller, le club moringué a énormément souffert au stade Santiago Bernabéu. Score final 2-2 pour cette demi-finale retour. Benzema auteur d'un doublé, grâce notamment à une bourde du gardien du Bayern Ulreich en début de seconde mi-temps.
Et la Roma tentera l'impossible ce soir.
Et oui, trois semaines après un incroyable exploit contre Barcelone, la S-Rome doit de nouveau remonter 3-1 de retard contre Liverpool ce mercredi pour atteindre la finale de la Ligue des Champions. Et l'entraîneur Eusebio Di Francesco l'assure, les Romains ont envie de faire un nouveau miracle.
Mancini tout proche du poste de sélectionneur.
L'entraîneur du Zénith Saint-Pétersbourg, Roberto Mancini, s'est dit prêt à devenir sélectionneur de l'Italie. Annonce hier de l'administrateur de la Fédération Italienne, Roberto Fabricini. Le budget prévu pour le futur sélectionneur et son encadrement a été fixé à 5 millions d'euros par an. On rappelle que la Squadra Azzurra n'a plus de sélectionneur depuis le mois de novembre et le départ de Gian Piero Ventura après l'échec historique face à la Suède en match de barrage pour accéder au Mondial 2018.
Salah, roi d'Angleterre.
Et l'attaquant vedette de Liverpool, Mohamed Salah, auteur de 43 buts cette saison, a été élu joueur de l'année par l'association des journalistes couvrant le football anglais. L'Égyptien a devancé d'une courte tête le milieu champion d'Angleterre de Manchester City, le Belge Kevin De Bruyne. Le mois dernier, Salah avait déjà reçu le trophée de joueur de l'année de la part du syndicat anglais des joueurs professionnels. Allez, Idrissa, avec vous, les playoffs de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Match numéro 1 du second tour en conférence Est entre Cleveland et Toronto. Les Cavaliers battent les Raptors 113-112. En conférence Ouest, Golden State bat de nouveau la Nouvelle-Orléans 121-116 et mène leur série 2-0.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Centrafrique, il y a eu au moins 20 morts et une cinquantaine de blessés suite à l'attaque de mardi matin contre l'église catholique de Fatima par une bande armée du PK5. Idriss Fall a recueilli la réaction de Martar Al-Nimeri, alias Force, chef d'un groupe armé du PK5 à Bangui, qui nie toute implication dans ce regain de violence.
Monsieur le journaliste, moi je ne sais rien, je suis malade au lit, et environ 9h30-10h, j'ai écouté les balles, ça sonne vers le quartier Fatima. J'ai demandé que les policiers et les gendarmes, ils ont venu quelqu'un avec son véhicule, ils pensent que c'est moi, ils ont tiré sur le véhicule. Ils ont blessé le monsieur. Dès que le monsieur a sauvé sa vie, il est venu au kilomètre 5, ses parents qu'ils ont revendiqué. Parce que leur frère est en danger, en coma. Il n'a pas même des armes pour aller tuer quelqu'un, ni grenades, ni effets militaires. Ça veut dire, je ne sais pas ce qui est arrivé. Et maintenant, on est sur le terrain. On ne sait pas. On combat le MINUSCA ou on combat qui? Le FACA et les gendarmes. Le MINUSCA est devant et le FACA et le BALAKA, ils sont derrière. Ils tirent sur nous.
Vos forces ne sont pas mêlées à l'attaque de l'église Fatima.
Je ne connais rien sur l'église de Fatima. Moi, je ne suis pas contre les chrétiens. Ça fait 5 ans que je suis à côté de l'église. Pourquoi je n'ai pas allé brûler l'église? Il y a des éléments qui sont allés chercher son cigarette. Et ils pensent que c'est moi. Et la police et les gendarmes, ils ont serré sur lui. Et les messieurs, même, ils se trouvent à l'hôpital. Et l'histoire de l'église, moi, je ne sais rien. Si quelqu'un qui a les preuves sur moi pour aller attaquer l'église, il n'a qu'à se présenter. Il y a les ici, c'est son travail.
La MINUSCA dit que vous êtes des bandits qui extorquaient de l'argent aux commerçants du kilomètre 5.
Non, non, mais moi, je ne peux plus répondre à quelqu'un qui parle de renseignements verbaux. Si quelqu'un qui travaille dans un cadre des Nations Unies, avant de réagir, il faut descendre sur le terrain. J'ai pris même qui et pour qui. 1 000 francs, 1 050 francs pour quelqu'un. Et les gens qui ont fait le rapport contre moi au niveau de la MINUSCA, je vais le planter et je vais planter le gouvernement. Est-ce qu'une fois, je suis allé chez eux demander l'argent, ou une fois, je l'ai traqué, ou une fois, j'ai tenté le chef de l'État pour une cause de coup d'État? Moi, j'ai travaillé la paix et la cohésion sociale.
Et maintenant, votre groupe, il veut quoi? Il demande quoi, votre groupe armé dans le PK5?
Mais mon groupe armé a réclamé rien. Nous, on attend que les DDR, il y avait des enfants, il y avait des commerçants qui avaient les armes, mais il faut faire l'effort d'amener les gens là sur le DDR, monsieur le journaliste. Parce que le DDR n'est pas prêt. En même temps, le gouvernement n'est pas nous considéré. Parce que le mois d'avril, on a fait déposer les armes. On a appelé le chef de l'État, appelé le conseiller, appelé tout le monde. Et monsieur, maintenant le président est allé par les urnes. Et le 26 avril, il faut venir récupérer les armes de Saint-Chilo. On est fatigué. Merci au chef de l'État qui est devenu président.
Martar Al-Nimeri, alias Force, chef d'un groupe armé du PK5 à Bangui.
Le Tchad tourne une page de son histoire en entrant dans la 4e République. Le Parlement a voté une nouvelle constitution instaurant un régime présidentiel intégral qui renforce les pouvoirs du président Idriss Déby Itno. L'opposition dénonce un coup de force, une 4e République. Pourquoi faire? Quelles sont les mesures instaurées sous cette nouvelle constitution? Et quel est l'avenir du pays sous cette présidence intégrale? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel avec Raissa Gironda.
Au Burkina Faso, il est difficile pour les populations de passer une journée sans délestage. Ces interruptions momentanées d'électricité coïncident avec une période de forte chaleur où la température dans la capitale atteint les 40 degrés. De Ouagadougou, reportage de Lamine Traoré, correspondant de VOA Afrique.
Ouagadougou, chaque jour connaît son lot de délestages. Plusieurs quartiers sont souvent touchés, ce qui freine certaines activités. Nous sommes dans le quartier Katria, dans cet atelier de menuiserie, vitrerie et aluminium. Quand il n'y a pas d'électricité, tout s'arrête. Paul Ouedraogo en est le gestionnaire.
Ici, on a des machines, on a des outils qu'on utilise, surtout avec de l'électricité. On a des commandes. Quand il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas travailler. Les gens nous embêtent. C'est un manque à gagner parce que nous, on travaille sur le temps.
Autre lieu, pratiquement la même réalité. Une poissonnerie située non loin du siège du CIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Là-bas, ils connaissent des délestages permanents. D'ailleurs, on tombe à pic. Il n'y a pas d'électricité à la poissonnerie. Célestin Ouedraogo, gérant.
Souvent du matin jusqu'au soir, et après encore le soir, jusqu'à 22h, souvent 23h. Donc si vous constatez tout à l'heure, même il n'y a même pas de courant. Donc on ne sait pas à quelle heure ça va venir.
À la Sonabel, Société nationale d'électricité du Burkina, on tente d'expliquer ses nombreux délestages. Pascal Emma, directeur des transports à la Sonabel.
Depuis un certain temps, nous rencontrons une difficulté, notamment un déséquilibre entre l'offre et les besoins de la clientèle qu'on appelle la consommation. De telle sorte que l'offre disponible ne peut pas satisfaire à la demande de la clientèle et nous sommes obligés d'opérer ce qu'on appelle le délestage.
La Sonabel dit travailler à minimiser le déséquilibre, mais il y a des sacrifices à faire, surtout au niveau de la population.
Si on est assis au salon, qu'on veille à éteindre les lampes dans les chambres, nous avons publié un programme de délestage, un programme qui permet aux uns ou aux autres de savoir à tel moment de la journée ou de la nuit je suis susceptible d'être interrompu pour pouvoir justement rétablir l'équilibre.
En attendant l'interconnexion avec le Ghana voisin, pour remédier à ces difficultés en fourniture d'électricité, ces perturbations énergétiques vont se poursuivre, selon les responsables de la Sonabel. Le Premier ministre Paul Kabatieba, lui devant la représentation nationale, a annoncé qu'en 2019, ça sera zéro délestage. Attendons donc de voir. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Congo-Brazzaville, les opposants, mais surtout de simples citoyens, publient des informations plus ou moins fausses sur la vie des autorités qu'ils traitent avec beaucoup de liberté de corrompus. Ces informations distillées sur les réseaux sociaux sont souvent prises avec beaucoup de sérieux. C'est ce que nous explique notre correspondant à Brazzaville, Nguela Nguessou.
Il ne se passe pas un jour sans que les Congolais ne découvrent un grand déballage sur la vie d'un dignitaire du pouvoir ou de l'opposition et leur famille. Affaires de corruption, de comptes offshore ou les disputes dans les réunions officielles, les scènes de ménage dans les cours des autorités, tout est rapporté. Aucun dirigeant n'est à l'abri de ce qui devait de plus en plus être plus au sérieux. À l'UPADES par exemple, la principale formation de l'opposition, les cadres pour réclamer la tenue du Conseil national sont en train de passer par les réseaux sociaux. Destin et loi responsable unis pour le Congo, le parti de l'opposant Paulin Makaya, trouve plutôt qu'il fallait inventer les réseaux sociaux s'ils n'existaient pas.
Si les gens aujourd'hui parlent, c'est parce que les gens sont fatigués. Non, il faut laisser les réseaux sociaux s'exprimer. Et c'est ce que se dit dans les réseaux sociaux, c'est faux. C'est la réalité. Dites-moi, quel est l'instrument aujourd'hui que le peuple, que les citoyens, même les gens d'opposition, même marcher, on a vous interdit. Alors les gens sont obligés de passer par ces mécanismes de communication pour leur permettre de s'exprimer. Les gens, on en a marre.
Pour Lauriane Pouki, une usagère des réseaux sociaux, mais aussi coordinatrice d'une plateforme de site internet, il y a trop d'abus sur internet.
Oui, c'est juste une volonté de nuire. Il y a certaines informations. Moi, je me dis, il y a certaines personnes ou les gestionnaires de ces pages-là, deux fois, ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas d'informations, ils se disent, bon, on doit créer un buzz. Et ils se mettent à fouiller des choses, à transformer des vérités en des choses fausses pour attirer plus de gens parce que de nos jours, les gens sont plus intéressés à des futilités qu'à une vraie information.
Idriss Bosoto est un enseignant de nouvelles technologies à l'université Marien Gwabi. Il a retenu une publication émouvante sur les réseaux sociaux.
On va parler également de ce fichier audio qui a circulé via le réseau social WhatsApp relatif à l'intervention du soi-disant sergent maçon ou je ne sais quoi, qui a, on va dire, entraîné une véritable psychose dans Brazzaville pendant près d'un mois. Tous les Congolais étaient, on va dire, affectés directement et indirectement. information qui a eu un impact social, mais qui a eu également un impact économique et surtout sécuritaire.
Mais qu'est-ce qui peut bien justifier un tel accaparement presque agressif des Congolais sur les réseaux sociaux? Alphonse Ndongo, un journaliste sur les réseaux sociaux, tente une explication.
Lorsque ceux qui sont censés donner la bonne information ne la donnent pas à temps ou gesticulent pour la donner, évidemment, ça laisse libre cours à tout genre de rumeurs, de mauvaises informations et partant de fake news.
Depuis un moment, la plupart des membres du gouvernement se dotent des comptes Facebook ou Twitter pour essayer de répondre à toutes ces attaques. Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Après un mois de voyage à pied, en bus ou en train, la caravane de migrants venus d'Amérique centrale est arrivée au port de Tijuana au Mexique, porte d'entrée aux États-Unis. Ils sont des centaines de migrants cherchant à obtenir l'asile. Les responsables de l'immigration en Californie disent qu'il y a un trop plein de demandeurs, ce qui a amené quelques 150 personnes, dont des femmes et des enfants, à camper sur place et faire le pied de grue à la frontière. Reportage d'Arturo Martinez, repris ici par Raissa Girondin.
Y después, la caravana, de este lado, algunos miembros de la caravana...
Fatigués et émus. Plus de 150 migrants ont terminé leur traversée de l'Amérique centrale à la frontière avec les États-Unis. Beaucoup disent avoir fui la violence et une vie de misère. L'un d'entre eux a fui l'Honduras.
Je suis heureux d'avoir cette opportunité, mais j'ai doute de ce qui va advenir.
Les lois américaines permettent à des individus de demander l'asile s'ils peuvent démontrer de manière crédible qu'ils fuient la persécution. Après la longue marche jusqu'à la frontière américaine, c'est la longue attente qui continue. Les responsables de l'immigration assurent que la porte d'entrée est fermée après avoir atteint sa capacité d'accueil de 300 personnes. Nicole Ramos, avocat de l'immigration, reste très sceptique. Ils affirment qu'ils vont prendre sur les gens lorsqu'ils auront les capacités d'accueil. Mais comment est-ce possible que le gouvernement américain, le plus puissant et l'un des plus riches au monde, n'ait pas les capacités d'accueillir 200 réfugiés, des gens vulnérables? Je n'y crois pas. Ne pouvant entrer sur le territoire américain, la plupart des migrants passent la nuit à la Belle Étoile avec leurs sacs et baluchons. Lundi, le président Trump a dit qu'il surveille de près leur caravane. Il a aussi tiré à boulet rouge sur la politique dite « arrêter puis relâcher » qui permet de relâcher les migrants après une détention prolongée. Le président Donald Trump est en désaccord total avec une telle politique.
S'ils touchent
à notre propriété, s'ils touchent à notre pays, vous les arrêtez puis vous les relâchez dans la nature, ce n'est pas acceptable. Nous avons besoin de changer la loi.
Les personnes qui demandent l'asile doivent respecter la loi. C'est ce que souhaitent ceux chargés de surveiller quelques 3000 kilomètres de frontière entre les États-Unis et le Mexique, dont George Rivera, un garde-frontière.
Nous comprenons qu'ils ont un rêve à réaliser et qu'ils ont un besoin. Il y a des lois dans ce pays et nous devons les respecter. Nous attendons cela de quiconque vient dans notre pays et nous sommes là pour faire respecter la loi.
Parmi tous ces candidats à l'immigration, près de la moitié sont des mineurs accompagnés par leurs parents. Ils ne pensent pas tous obtenir l'asile. Louis Pavon, venu du Honduras, a préféré rester à Mexico pendant que sa femme et sa fille entament le processus de demande d'asile.
Au Honduras, beaucoup ont déjà été tués. Là-bas, je n'aurais jamais pu revoir ma famille. Au moins ici, de l'autre côté de la frontière, j'ai espoir de pouvoir la revoir un jour.
Réaliser le rêve américain est comme un parcours du combattant, mais l'espoir est encore permis.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOAAfrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel.
Au programme de la bonne musique, notre sujet de cette semaine, la différence de salaire homme-femme. D'où provient-elle? Pourquoi certaines femmes gagnent-elles moins que les hommes? Envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp au 001 703 350 3731. C'est au 001 703 350 3731. Contactez-nous aussi sur notre page Facebook Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous en live, en direct pour participer. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Jean-Roger Bio pour le suivi de l'actualité et à Anne Albertson pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.